Juliette Rangeval.
London is a good place for me. London, this lovely city.
Bonjour, les élections européennes, c'est parti au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. D'abord, ce jeudi, le Royaume-Uni toujours pris dans la tourmente du Brexit et cette question, comment vous votez les Européens qui vivent outre-Manche ? Les Français expatriés, par exemple, peuvent choisir entre voter pour une liste de leur pays d'accueil ou voter pour une liste française. Mais entre la poussée attendue des populistes en Europe et la saga du Brexit, qui dure, Marie Billon a rencontré des électeurs en plein dilemme.
Ceci est un meeting politique à Londres. Ils ont été assez rares au Royaume-Uni pendant cette campagne européenne pour être relevés. Plus précisément, il s'agit d'une réunion publique de Renaissance, la branche européenne du parti majoritaire français En Marche. Fin avril, la tête de liste Nathalie Loiseau est venue appeler la communauté française à voter dans l'Hexagone.
Je voudrais juste vous dire quelque chose. Côté français, n'oubliez pas que le Rassemblement national a fait la fête il y a 3 ans. Que le Rassemblement national veut un Brexit rapide et si possible un Brexit dur. Et que si le Rassemblement national fait le même score que la dernière fois et qu'il s'allie avec les Brexiteurs les plus irresponsables, on sera en difficulté.
Nathalie Loiseau a touché une corde sensible pour les ressortissants européens comme pour les Britanniques. L'enjeu de ces élections, c'est en effet le Brexit, avec en toile de fond la montée de l'extrême droite. Alors, la plupart des Français présents ont décidé de voter sur les listes françaises.
J'ai un peu le dilemme, je voudrais empêcher Farage de passer en Angleterre, mais par contre, j'ai encore plus envie d'essayer d'arrêter Le Pen de passer en France. Et en fait, j'estime que mon cœur est plus près de la France et j'ai plus peur de ce qui va se passer en France et en Europe en général.
On a été un peu exclus avec le Brexit, donc je me retrouve un peu à voter en France maintenant. C'est une façon un peu de commencer d'abandonner la Grande-Bretagne, hélas.
En fait, je suis impliqué en politique britannique et j'ai quand même décidé de voter pour la France. Je travaille avec le Parti libéral-démocrate. Parce que je pense qu'on est dans une situation où un vote en Grande-Bretagne peut avoir un impact sur 3-6 mois. On n'est pas sûr de quand les députés vont siéger, s'ils siègent tout court. Et pour la France, c'est un vote qui dure 5 ans, assurément.
Car le but du gouvernement de Londres est de faire voter son accord du Brexit négocié avec Bruxelles début juin, pour que, fraîchement élus, les 73 eurodéputés britanniques n'aient même pas à siéger quand la session s'ouvrira début juillet. Et même si Theresa May essuie une nouvelle défaite, la date de sortie de l'Union européenne et donc de fin de mandat pour les MEPs, comme on dit en anglais, est pour l'instant fixée au 31 octobre. En tout cas, pour ces Français qui comptent voter dans l'Hexagone, la date de scrutin est la même qu'en France, c'est le 26. C'est assez clair et carré pour eux, ça l'est moins pour les Européens qui ont décidé de voter sur des listes britanniques, comme le déplore Nicolas Hatton, chef du groupe de pression représentant les ressortissants européens de Free Million.
Alors bien sûr, tout avait été prévu pour qu'on puisse voter dans nos pays d'origine, mais quand on est impliqué dans sa vie locale, on a envie de voter localement, mais nous on se plaint qu'il a été très difficile pour les ressortissants européens de pouvoir déclarer qu'ils voteraient au Royaume-Uni. Il n'y a eu aucune communication. Il fallait contacter sa mairie, se faire envoyer un formulaire, le renvoyer. Il n'y avait aucune procédure électronique. Le résultat, bien sûr, c'est que le 23 mai, ils vont aller au bureau de vote et on va leur dire « Ah, mais désolé madame, désolé monsieur ». Vous n'êtes pas inscrit pour voter ici au Royaume-Uni. Vous êtes inscrit dans votre pays d'origine.
Les Free Million et certains politiques britanniques parlent de centaines de milliers d'Européens qui rentreront bredouille. Véronique Martin, elle, fait partie de ceux qui ont bien fait les démarches nécessaires. Cette Française vit à Bath depuis 32 ans. Écrivaine, elle a notamment édité le livre In Limbo, qui recueille des témoignages d'Européens inquiets du Brexit. Pour elle, décider de voter sur des listes britanniques n'a pas été un choix facile.
C'est la première fois que je vais voter pour les européennes en Grande-Bretagne. Et ça n'a pas été un choix facile parce que la France, en ce moment traverse une période très difficile. Je reconnais totalement dans les Gilets jaunes les mêmes influences qu'avec le Brexit, la même haine, les mêmes slogans, exactement la même chose. Et donc je m'aperçois que la France est sous la même attaque que nous avons vécue ici depuis bien 3 ans. Et donc évidemment, je voulais soutenir la France, mais je ne pensais pas qu'il y aurait d'élections européennes. Et comme il y a les élections européennes, c'est ma seule façon d'avoir un vote, puisqu'on m'a empêché, moi et les 3 millions d'Européens en Grande-Bretagne, on nous a empêché d'avoir un vote lors du référendum de 2016, référendum qui a complètement tourneboulé nos vies.
BAF a voté pour rester dans l'Union Européenne à 58% en 2016. Mais dans le centre du pays, là où vit une autre contributrice d'Île Nimbo, Isabelle Karimov, les voix sont plus dissonantes. 50,4% a voté pour sortir de l'Union Européenne. Alors, pour Isabelle, le choix a été moins difficile.
Ça fait quand même assez longtemps qu'on est ici, donc ça paraît aussi logique de voter dans le pays où on vit. Pour nous, forcément, en tant que Français, l'option Brexit, c'est pas du tout ce qui nous intéresse, donc on va voter pour un parti qui veut du Remain, donc on va voter Lib Dem.
Sauf que tous les Français ne pensent pas comme Isabelle, certes très peu nombreux, ceux-là soutiennent le Brexit. Didier Delmer fait partie de ces exceptions. Il est même le coordinateur du Brexit Party dans la région du Berkshire, là où il vit. Nous le retrouvons à son arrivée à Londres, à la gare de Waterloo.
Ça fait 14 ans que je vote en Angleterre. Parce que j'en ai fait mon pays, tout simplement. Je ne suis pas encore britannique, mais mon cœur, mon cerveau, l'est en totalité. Pour moi, ici, en Grande-Bretagne, l'enjeu, c'est de confirmer le vote pour le Brexit. Pour moi, c'est la démocratie, tout simplement. Voilà, les gens ont voté.
En tout cas, les Européens vivant au Royaume-Uni semblent décidés à faire entendre leur voix d'une manière ou d'une autre. Dans le pays, on s'attend à un taux de participation plus élevé que les années précédentes.
Europa ! Europa ! Europa !
Oui à l'Europe, non à l'Europe. Merkel est bête. Derrière ces slogans absurdes ou provocateurs qui s'affichent dans les rues de Berlin, il y a Die Partei, un parti satirique allemand en lice pour ses européennes. À sa tête, Martin Sonneborn, un humoriste qui siège depuis 5 ans maintenant au Parlement européen et qui retente l'aventure. Son portrait est signé Wilhelm Munoz-Boileau.
Jusqu'en 2004, Martin Sonneborn était rédacteur en chef de Titanic, un mensuel satirique de gauche. Mais cette année-là, se tiennent des élections européennes, c'est elles qui vont pousser le journaliste à se lancer en politique.
Au sein de la rédaction de Titanic, plus personne ne savait pour qui voter. On a donc décidé de créer notre propre parti. Et croyez-moi, on se décide beaucoup plus facilement quand on trouve son nom sur le bulletin de vote.
Martin Sonneborn lance donc Die Partei, un parti qui se revendique de centre radical, avec une proposition phare, reconstruire le mur de Berlin, une manière de tourner en dérision les tensions persistantes entre Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Et son programme regorge de propositions loufoques, par exemple pour réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes. Die Partei propose d'indexer les salaires des cadres sur la taille de leur soutien-gorge. Tout cela, c'est pour rire, mais pas que.
Il y a toujours un message derrière la satire. Par exemple, quand on présente une liste avec des noms de nazis, on veut attirer l'attention sur la politique militaire de l'Union européenne.
Autre objectif de Die Partei, faire barrage à l'AFD, le parti allemand d'extrême droite, ou encore au NPD, le parti néo-nazi allemand qui a fait son entrée au Parlement européen en 2014. Pour ce faire, Martin Sonneborn est prêt à tout, comme le montre cet extrait d'une séance au Parlement européen. C'était à l'occasion de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel.
La parole est à Monsieur Sonneborn.
Merci Madame la Présidente. Madame la Chancelière, je dois m'excuser, je n'ai pas préparé de discours. J'ai juste demandé du temps de parole pour ne pas qu'il revienne à Udo Vogt du NPD.
Le style Sonneborn, au Parlement européen où il siège depuis 5 ans, l'humoriste fait figure de trublion. Il siège aux côtés des non-inscrits, ces eurodéputés non rattachés à un groupe politique. Estimant que son vote a peu d'impact sur les décisions soumises au Parlement, il vote oui. Une fois sur deux, ce qui lui vaut d'être diversement apprécié par ses collègues.
Les députés étrangers ne savent pas ce que je fais. La gauche, les verts et les sociodémocrates le savent, me respectent et m'informent quand un vote est ricrac. Et les conservateurs me haïssent.
Et après 5 ans au Parlement européen, Martin Sonneborn tire un bilan mitigé de l'Union européenne.
L'ensemble fonctionne, mais il est géré par les mauvaises personnes. Le Parlement européen est trop vieux, trop masculin. Il n'y a pas assez d'idéalistes. Et les gouvernements gouvernements n'y ont pas envoyé les meilleurs. Au contraire, ils ont souvent envoyé les plus bêtes.
Crédité de 2 à 3% dans les sondages, le 26 mai, Die Partei pourrait remporter un deuxième siège au Parlement européen. Mais quoi qu'il en soit, Martin Sonneborn a déjà plein d'idées pour les 5 années à venir.
Je vais semer encore plus le trouble, jeter des pays en dehors de l'UE. Les Anglais, c'est déjà fait. Maintenant, je réfléchis à faire de même avec les Français. Ça dépend. On verra si Macron instaure des réformes sociales ou non.
Et s'il est réélu le 26 mai, Martin Sonneborn invite ses électeurs à venir fêter ça dans un club berlinois.
La vague eurosceptique, europhobe, populiste qui pourrait déferler sur le Parlement européen après les élections ne touchera pas tous les pays. Au Portugal, d'après les derniers sondages d'intention de vote, il devrait faire un score négligeable. Le pays a beaucoup bénéficié du projet européen par le passé et après la crise de 2010 à 2014, le pays respire enfin. Considéré comme le bon élève de l'Europe, le Portugal a su tenir tête à Bruxelles pour inverser la tendance de l'austérité. Les résultats macroéconomiques sont là, mais tout n'est pas rose. La précarité est l'un des thèmes qui s'est invité dans le débat des européennes, Marilyn Darcy.
L'avenue de la liberté a fait le plein pour les 45 ans de la Révolution le 25 avril dernier. L'artère principale de la capitale reçoit le traditionnel défilé commémorant la démocratie. Pour l'occasion, beaucoup de jeunes venus rappeler les valeurs démocratiques, mais aussi leurs difficultés. Luís Baptiste préside une association de jeunes de la banlieue de Lisbonne.
Moi, je travaille dans le tourisme, l'hôtellerie. C'est le royaume de la précarité. On touche 600 euros, c'est le salaire minimum. Mais comment voulez-vous qu'un jeune fonde une famille et loue une maison ? Impossible. Alors on a le choix. Ou bien on se trouve un petit copain ou une petite copine pour partager un appartement, ou on retourne chez ses parents. Au Portugal, on a un gouvernement de gauche, mais il y a encore du chemin à faire pour offrir de dignes conditions de vie à la jeunesse du pays.
Un peu plus loin dans le cortège, un groupe assez important de jeunes étudiants, rarement démonstratifs d'habitude, mais Inés Santos a tenu à défiler. Cette jeune étudiante infirmière s'inquiète pour son futur.
La précarité, c'est une réalité. Je le vois bien dans notre métier. Si on compare à d'autres secteurs de la santé, les infirmiers sont les plus mal payés. Pourtant, c'est une profession qui paie le prix physiquement et psychologiquement. Alors on mérite plus de reconnaissance.
Depuis 4 ans, avec la sortie de la crise et l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement socialiste, s'appuyant sur un soutien parlementaire d'extrême gauche, la situation des Portugais s'est améliorée. Le chômage est passé de 18% pendant la crise à moins de 7% de la population active, selon les chiffres officiels largement repris par les autorités. Mais ils sont contestés par certains chercheurs. C'est le cas de Raquel Varela, historienne des mouvements sociaux.
Quand on fait le calcul de ce que l'on appelle les inactifs disponibles, c'est-à-dire les personnes qui ne cherchent plus de travail, le sous-emploi ou le temps partiel, ça nous ramène en fait à 12 ou 13% de taux de chômage. Ce calcul se base sur les critères de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et ces données apparaissent aussi dans les statistiques officielles portugaises, sauf qu'on ne les présente pas. Quoi qu'il en soit, 10% des Portugais qui travaillent 8 heures par jour n'arrivent pas à payer leurs factures. Pas parce qu'ils sont endettés, mais parce que les salaires sont trop bas face au coût de la vie.
Le panorama de l'emploi a besoin d'être modulé, d'autant plus qu'il repose sur le tourisme qui connaît un véritable boom. Ce secteur pèse désormais 13% du PIB. Luis Mendes, géographe et urbaniste.
L'expansion du tourisme a un aspect très positif, c'est la création d'emplois. Mais c'est très souvent un emploi précaire. Il s'agit souvent d'un second job complémentaire, des contrats très courts au mieux, quand il y en a. On voit bien se développer une économie informelle. Mais on ne peut quand même pas penser que des familles s'en sortent désormais grâce à ce genre de travail, surtout pendant la crise.
Durante a crise, é essa a visão que eu tenho.
Nos termos da lei de televisão, o espaço de emissão que se segue.
La plupart des candidats à l'élection européenne ont bien inscrit dans leur programme la lutte contre le chômage. Mais pour Gonçalo Madalena, il faut aller plus loin. À 24 ans, il est tête de liste du Parti travailliste portugais et met l'accent sur le combat contre la précarité.
Nous voulons inverser la tendance et changer la vision que l'on a des jeunes dans notre société. Les jeunes sont toujours en situation de précarité pour le logement ou l'emploi. Mon jeune âge ne doit pas être un handicap. Au contraire, il s'agit d'améliorer nos conditions et notre quotidien.
Déficit maîtrisé, croissance relancée, c'est vrai, le Portugal va mieux. Mais la jeunesse s'impatiente, elle espère plus et mieux. Inès, apprentie infirmière.
Je n'ai pas encore pensé à émigrer, mais je suis ambitieuse et si mon pays ne m'offre pas de bonnes conditions, alors je partirai pour trouver mieux. Même si la situation s'est améliorée ici, il reste encore beaucoup à faire.
Le 26 mai, 17 listes seront en lice pour les européennes. Les Portugais doivent élire 21 députés. Le dernier sondage donne la victoire au Parti socialiste au pouvoir avec 33% des voix. So watch the money in your pocket and your purse, you better spend it with caution. Show them a tax for the flour, for the meal, for the rice. Everything you got to pay double price for the poor it no nice. Whoa.
Dans la foulée des baisses d'impôts annoncées en France, Daniel Vigneron s'intéresse à l'imposition de nos voisins européens. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Daniel, comparé à ce qui s'est fait ces dernières années, est-ce que les baisses d'impôts annoncées par le président Macron sont des baisses importantes ?
Si l'on se focalise sur l'impôt sur le revenu, qui en France, rappelons-le, n'est payé que par 43% des contribuables, il faut la comparer aux allègements intervenus de 2015 à 2017 sous le quinquennat de François Hollande. En tout, 6 milliards d'euros, dont 3 milliards dès 2015, accordés au bénéfice des petits contribuables. C'est à cette date que fut supprimée la première tranche d'impôt à 5,5%, ce qui a rendu non imposable plus de 2 millions de Français supplémentaires. Mais ces cadeaux fiscaux importants n'ont guère marqué les citoyens qui, durant les deux années précédentes, avaient vu leur charge fiscale globale s'alourdir de quelques 30 milliards d'euros. Un remboursement très partiel, en somme. Si le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy n'avait été marqué que par quelques allègements d'impôts, par exemple la défiscalisation des heures supplémentaires, le deuxième mandat de Jacques Chirac a été en revanche celui d'une vraie baisse de l'impôt sur le revenu, évaluée à 20% entre 2002 et 2007.
Par rapport à ses voisins européens, la France a-t-elle bien contrôlé l'évolution de sa fiscalité directe ?
Si l'on compare le ratio impôt-richesse nationale entre 2000 et 2017, on constate que l'IR s'est accru en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Il a en revanche légèrement diminué au Danemark, mais surtout au Royaume-Uni, en Belgique et en Suède.
Donc, les baisses d'impôts ne sont pas générales.
Le poids de la fiscalité dépend bien sûr de l'évolution du PIB. Les pays ravagés par la crise de 2008-2009 ont vu ainsi leurs recettes fiscales sévèrement amputées en l'absence de toute mesure. Mais il est vrai que certains pays ont recours aux allègements fiscaux parce que l'opinion publique les réclame ou que la conjoncture économique l'exige. D'autres le font plus rarement.
Est-ce que vous avez des exemples, Daniel ?
Eh bien, l'Allemagne, qui enregistre pourtant des excédents publics conséquents depuis 6 ans, a attendu 2017 et 2018 pour relever ses seuils d'imposition et alléger de 6 milliards en 2 ans l'impôt sur le revenu. Ce qui, outre-Rhin, ne représente qu'un petit effort. En revanche, le Royaume-Uni est beaucoup plus volontariste en la matière.
Et quelles sont les mesures récentes outre-Manche ?
En procédant à un relèvement marqué des seuils d'imposition, profitant aussi bien aux classes défavorisées que favorisées, le gouvernement conservateur de David Cameron a programmé sur la période 2015-2020 quelque 8,5 milliards d'euros de baisse d'impôts qui s'ajoutent aux 4,5 milliards réalisés dès 2010.
On dépasse les 10 milliards d'euros. Est-ce que c'est un record en Europe ?
Peut-être en termes de montant, mais d'autres baisses d'impôts conséquentes sont intervenues ailleurs. Pour se sortir du marasme économique dans lequel la crise l'avait plongé, l'Espagne du gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a procédé en 2015 et 2016 à une baisse pour un total de 7,7 milliards d'euros. De son côté, le gouvernement italien de Matteo Renzi réfléchit actuellement à l'instauration d'un taux unique à 15% pour l'ensemble des classes moyennes. Une simplification que les Pays-Bas vont mettre en œuvre dès 2021 avec deux taux seulement à 37 et 49,5%.
Enfin Daniel, est-ce que vous avez d'autres exemples de grandes réformes fiscales ?
Plusieurs pays de l'Est ont instauré le taux unique, la flat tax, et l'ont diminué nettement. L'Estonie l'a ainsi ramené en 20 ans de 26 à 20%. Quant à la Hongrie, elle vient à présent, pour des motifs natalistes, de supprimer carrément l'impôt sur le revenu à partir du quatrième enfant par foyer.
Merci Daniel Vigneron, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous réécoutez sur rfi.fr, podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve ici demain à la même heure.